Mondrian a évolué au-delà du cubisme avant 1914 déjà. Ces variations infinies du trait droit s'est développée graduellement au cours de l'évolution d'une année et demie chez Mondrian, jusqu'à se réduire au trait vertical et horizontal à l'exclusion de tout autre. Il a glissé de la figuration à l'abstraction d'abord par l'idée de l'ordre, de la discipline horizontale, verticale, qu'il découvrait dans la nature, dans toute chose. Il voit partout dans la nature, parce qu'il aime beaucoup la nature, il est peintre et il la peint tellement, peu à peu il se met à voir dans la nature l'horizontalité et la verticalité. La mer, c'est l'horizontalité. Les arbres qui descendent dans la mer, c'est la verticalité. Ainsi, l'horizontale et la verticale se rencontrent et ça devient le masculin et le féminin. Un dualisme fondamental sur lequel il fondera tout.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1965, le couturier Yves Saint-Laurent ébranla le monde de la haute couture avec son extraordinaire collection Mondrian. Explosion de couleurs franches, formes géométriques soulignées de lignes noires horizontales et verticales, c'était le style reconnaissable dans le monde entier du peintre hollandais, inventeur du néoplasticisme, mort en 1944 à New York. Et lorsque dans les plus grands musées du monde on vient aujourd'hui admirer ses toiles, on n'imagine généralement pas que ce peintre abstrait d'une radicalité absolue ait pu représenter chaque jour, jusqu'à sa mort, une fleur dans le plus pur académisme. Il est bon que parfois une exposition vienne bouleverser ce que l'on croyait savoir d'un artiste. Au vu de l'annonce de la toute dernière organisée au musée Marmottan-Monet, on a cru avoir mal lu. Mondrian figuratif en étant l'intitulé. Sans doute des œuvres de jeunesse, pouvait-on croire, du Mondrian avant Mondrian en quelque sorte. Et en réalité, Marianne Mathieu qui dirige le musée nous propose carrément de renouveler notre compréhension du peintre qui, démontre-t-elle en une soixantaine de tableaux, a toujours conjugué en même temps figuration et abstraction. Grâce à la collection méconnue de Salomon Slipper, conservée au musée de La Haye, nous pouvons donc comprendre l'évolution de Piet Mondrian vers la représentation quasi mystique de l'essence des choses. Bonsoir Marianne Mathieu.
Bonsoir Katineva.
Alors, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à cette exposition que vous nous proposez en ce moment au musée Marmottan-Monet, vous allez contrecarrer la doxa habituelle des historiens de l'art pour qui Mondrian figuratif, ce n'est pas Mondrian?
Oui.
Alors voilà, c'est dit, c'est dit.
Oui, l'exposition qui est organisée aujourd'hui au musée Marmottan-Monet présente un Mondrian qui est un maître, présente un Mondrian de la maturité, c'est-à-dire des œuvres qui sont créées depuis sa jeunesse jusqu'à ses 50 ans. Donc le Mondrian figuratif n'est pas le peintre d'avant Mondrian, d'avant le père de l'abstraction, il est un. Et d'ailleurs, on voit dans cette exposition, dont le déroulement est purement chronologique, que Mondrian n'oppose pas la figuration à l'abstraction. Ses toiles figuratives sont nombreuses, mais elles coexistent la même année avec des toiles que l'on dira aujourd'hui abstraites. Et c'est donc cette question que l'on pose, finalement, que cherche Mondrian et qu'est-ce qui fait que la figuration et l'abstraction peuvent ensemble coexister.
Alors, autre surprise, c'est de trouver quand même Mondrian dans le temple de l'impressionnisme de Monet. En fait, c'est le côté révélé, artiste révélé par un collectionneur, en l'occurrence là, Salomon Slipper, qui vous a permis de faire cette exposition Mondrian chez Monet.
Oui, c'est Mondrian chez Monet, et vous le dites très justement, Le musée Marmottan mené à Paris, c'est la maison des collectionneurs. C'est-à-dire, c'est un établissement dont toutes les collections ont été offertes par une trentaine de bienfaiteurs qui ont décroché de leur salon des œuvres pour qu'elles fassent partie du patrimoine commun. Et parmi ceux-là, eh bien, il y a les descendants de Monet. Et comme les descendants de Monet, Salomon Slipper, dont vous avez donné le nom tout à l'heure, n'avaient pas d'enfants, comme le descendant de Monet, Salomon Slipper, a institué un musée sans légataire, le musée de La Haye, et comme le descendant de Monet, eh bien, le musée dépositaire est devenu le gardien du premier fonds mondial. C'est par cette porte-là, éclairer le rôle des collectionneurs dans la vie des arts, le moment où l'art bat de tout son cœur, que nous avons entrouvert cette porte. Mais finalement, il y a d'autres liens. Et on le voit, Mondrian, on l'imagine, j'allais dire, tel qu'on le connaît. Et on pense qu'on va être surpris, qu'on va voir quelque chose de différent. C'est vrai, c'est une exposition qui est absolument extraordinaire, car en 70 œuvres, on a l'impression de rencontrer une dizaine de peintres et une dizaine de grands maîtres. On voit des toiles qui sont éclatantes de couleurs. On voit une manière d'apposer la touche qui peut passer de la plat jusqu'à l'expression la plus pure. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui va relier toutes ces œuvres les unes entre elles? Eh bien, c'est le sujet. Et de la même manière que Monet va peindre tout au long de sa vie le même sujet, il va représenter la lumière à travers Impression Soleil-Levant qui est au musée Marmottan, une petite marine qui représente le Havre dans la brume, ou à la fin de sa vie, à travers des toiles monumentales, que sont les nymphéas, eh bien, Mondrian aussi, à travers toutes ces manières, eh bien, cherche à représenter ce qui était remarquablement bien décrit dans l'archive du début de l'émission, l'essence des choses.
Alors, ce Mondrian que l'on découvre chez vous, Marianne Monnet, je dis chez vous parce que c'est vrai que le musée Marmottan-Monnet, c'est devenu votre maison. Depuis le temps, on ne peut pas y aller sans comprendre ce qui vous anime en tant que conservatrice, directrice et historienne de l'art. En fait, ce Mondrian, on le découvre tout à fait comme une éponge au début de sa vie d'artiste. Il peut faire des toiles fauves, il est impressionné par Van Gogh, on trouve des ressemblances. D'ailleurs, on va écouter en archive la voix de Serge Lemoine, l'ancien directeur d'Orsay, qui parle justement de ces divers Mondrian.
Il va mener, si vous voulez, cette espèce d'expérimentation de tous les styles un peu en même temps. Il a fait des tableaux dans le style de l'école de La Haye, n'est-ce pas, ou dans la manière de l'école de La Haye, qui sont absolument remarquables. On voit, par exemple, comment il traite un moulin au bord de l'eau, en s'intéressant à toutes les variations de la lumière, n'est-ce pas, des heures du jour. Certains de ses tableaux, justement, représentant des moulins au crépuscule, sont tout à fait extraordinaires. Hein, et donc, d'un seul coup, n'est-ce pas, on voit que les sujets qui étaient les siens prennent une nouvelle dimension, n'est-ce pas ? Il gagne en ampleur. Hein.
Oui, c'est ça.
Après, il continue par exemple à représenter un moulin, mais à la manière fauve. Donc il va travailler les couleurs, et il va travailler les couleurs pour représenter toujours d'ailleurs la lumière. Il y a un très célèbre tableau qui est le moulin au soleil, qui est un de ses grands chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, où déjà il utilise des couleurs réduites, hein, uniquement du bleu, du rouge, du jaune.
C'est 1908.
C'est un tableau fauve, et on s'aperçoit que déjà à ce moment-là, même si donc c'est dans la suite du fauvisme, Mondrian est un grand peintre fauve. Ce n'est pas un suiveur, ce n'est pas quelqu'un qui reprend des formules. Il invente quelque chose dans l'esprit, justement, du fauvisme. Quand il réalise des tableaux symbolistes, il est aussi parfaitement original.
Marianne Mathieu, quand Serge Lemoine parle de Mondrian fauve, avec ses moulins au soleil, ses éclats de couleurs incroyables, ces toiles sont dans votre exposition?
Oui, nous avons la chance à Marmottan de présenter une exposition, je crois qu'il faut le dire, elle est historique, elle est unique. Avoir toutes les pièces clés d'un Mondrian figuratif, des pièces majeures que l'artiste lui-même a voulu conserver, destinées à un musée car représentatives de son chemin, de sa recherche, c'est quelque chose de rarissime, et c'est vrai que le parcours de l'exposition, en se voulant chronologique, en créant des axes de vue, des perspectives permettant les rapprochements, montre en fait toute la richesse, toute la diversité, mais aussi toute la cohérence de l'œuvre de Mondrian à travers des œuvres uniques, rares. Et c'est vrai que, je crois qu'on peut le dire, elle vaut vraiment le voyage.
Alors, c'est vrai qu'il y a une récurrence de certains thèmes qu'on va retrouver sans arrêt chez Mondrian. Et on voit, au fil des tableaux que vous avez accrochés au musée Marmottan-Monet, l'apparition de la recherche de ce que vous allez appeler, on va en parler, l'essence des choses, que d'autres appellent au fond la structure, pour commencer. On va écouter Marina Vancy, qui est une historienne de l'art, et qui parle justement de cette épure progressive que l'on suit dans les toiles de Mondrian.
Il y a donc, avant cette période abstraite, il y a toute une époque dans l'œuvre de Mondrian qui est basée sur l'étude justement de la nature. Il s'agit de paysages peints au bord de la mer, à Scheveningen par exemple, ou de séries d'arbres et de façades de cathédrales. Le motif existe toujours, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'aspect extérieur, mais c'est la structure. Par rapport au peintre impressionniste, enfin qui s'intéressait plutôt au changement, au problème de lumière, de passage de lumière, de changement justement de la forme par rapport à la lumière, Mondrian s'intéresse surtout à la structure. Donc aux choses qui sont essentielles, élémentaires, de base dans la forme et non pas aux éléments qui changent.
Marianne Mathieu, Marina Vancy dit la structure. Vous avez une plus jolie expression, vous dites que Mondrian cherche l'au-delà des apparences, l'essence des choses.
Oui, Mondrian, c'est un peintre, on ne peut plus spirituel, empreint de religiosité, c'est un fils de pasteur. Et le sujet de sa peinture reste le même, du premier jour jusqu'au dernier, qu'il soit figuratif ou qu'il soit abstrait. Alors on pourrait essayer de penser les choses un petit peu différemment. Quand on imagine le Mondrian néoplasticiste, celui des robes de Saint-Laurent, on imagine un intellectuel, on imagine un penseur. Mondrian, ça n'est pas ça. C'est le contraire. Mondrian, c'est un peintre. C'est donc quelqu'un qui travaille avec un pinceau, avec de la matière, avec des couleurs. Et ce sont ces outils de peintre-là qu'il va questionner toute sa vie. Et la peinture néoplasticiste, celle que nous connaissons tous, exprime avec les moyens de peintre, eh bien, cette structure que décrit Marina Vancy. Et donc, le sujet est le même. Et donc, la problématique de Mondrian, quand il peint ces paysages atmosphériques de l'école de La Haye, que décrit Serge Lemoine, qui marque le début de l'exposition, et qui sont étonnants de sûreté, on découvre un Mondrian dessinateur extraordinaire, avec des nocturnes qui, moi, m'ont bouleversé. Eh bien, on a un artiste qui s'interroge et qui se dit « je peins comme mes maîtres ». Et finalement, je n'arrive pas à essayer, en représentant la nature telle que je la vois, à représenter cette essence des choses, ce qui fonde le paysage. Et toute la problématique de Mondrian, ça va être de la montrer. Mais comment représenter ce qui n'a pas de forme, ce dont on ne connaît pas la forme? Et que va faire Mondrian? Il va interroger ses moyens de peintre. Et quels sont ses moyens de peintre? C'est rechercher, interroger la couleur. C'est pour ça qu'on a à un moment cette explosion de couleurs absolument radicale avec des toiles qu'on dit préluministes, ont des vues panoramiques, de champs avec un moulin, on a l'impression d'orthogonal, des lointains jaunes, roses, extrêmement prégnant, ce moulin dans la clarté du soleil qui est le moment où Mondrian focalise son regard sur l'étude de l'expression de la couleur, la touche est libérée, hein, elle est fauve. Et puis, il y a l'intérêt pour le motif. La couleur d'un côté, et que dit le motif? À trop vouloir représenter le monde, on le perd. Et donc, le prisme de Mondrian, eh bien, il va se resserrer. Et donc, il va représenter là un moulin, là la façade d'une église, là un phare, et il va en chercher la structure. Et que reste-t-il une fois qu'il a déshabillé la peinture? Eh bien, il reste des lignes d'un côté, ce sont les motifs, et des couleurs de l'autre.
Alors, est-ce que ça veut dire, Marianne Mathieu, que pour apprécier les toiles néoplasticistes qui sont exposées, celles-là essentiellement dans les grands musées, si on veut vraiment comprendre cette peinture, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire ces toiles que vous appelez figuratives dans votre musée.
Elles représentent la même chose. Et effectivement, on voit dans l'exposition du musée Marmottan-Monet que l'un ne s'oppose pas à l'autre, qu'elles se portent et qu'elles se contiennent l'un l'autre. Et d'ailleurs, en 1918, Mondrian, qui s'affirme comme le père de l'abstraction, hein, au moment où qui va être marqué par le retour à l'ordre, c'est-à-dire tous ses collègues vont revenir à la figuration au lendemain de la Première Guerre mondiale, Mondrian refuse, eh bien il va faire son autoportrait de peintre. Il est donc l'homme qui a théorisé une simplification de la peinture pour en révéler la substantifique moelle. Se représente-t-il à l'aide de deux traits et de deux couleurs? Non. Il représente un tableau dans une grande tradition naturaliste. Il se représente en buste, il nous regarde, il défie le spectateur, il ressemble à l'autoportrait de Nicolas Poussin qui est au mur, au Louvre, pardon, j'aimerais bien l'avoir à
mon mur. Oui, ce serait bien.
Et derrière lui, sa première toile abstraite. Et donc, la figuration porte l'abstraction, l'un et l'autre se complètent, ils disent la même chose, mais l'un de manière plus précise, plus concise, et c'est pour ça que Mondrian, sans jamais se trahir, peut peindre une rose tous les matins de sa vie.
On l'a appelé notamment le Bach de la peinture.
Sur France Inter.
Les 70 toiles de ce Mondrian figuratif que vous nous proposez jusqu'au 26 janvier, Marianne Mathieu, au musée Marmottan-Monet. En fait, ces toiles, elles se terminent, la dernière est datée de 1921. C'est la dernière de la collection Salomon Slipher. En fait, on se dit, en voyant cette collection, que Mondrian n'aurait peut-être jamais pu être connu, Mondrian, dans le monde entier, si cet homme n'avait pas collectionné des toiles qu'il avait parfois du mal à comprendre. C'était plutôt quelqu'un avec des goûts classiques, ce Salomon Slipher. Et il a permis à Mondrian de partir s'installer à Paris en lui rachetant un fonds d'atelier. Et c'est à partir de ce moment-là que leurs chemins se sont séparés. Mondrian étant, disons, assez content de ne plus devoir peindre pour ce Salomon Slipher à qui il devait tant. Salomon Slipher lui commande une toile dans le style classique et Mondrian l'envoie sur les roses. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de percer à Paris, ce qu'il aura du mal à faire, et il sera connu essentiellement à New York ensuite.
La rencontre de Mondrian et de Slipher est tout à fait déterminante. Alors, elle est déterminante pour Mondrian parce qu'effectivement, Mondrian arrive en 1912 à Paris. C'est là où il découvre le cubisme et où sa peinture commence à prendre un tour, j'allais dire plus clairement, non figuratif, si ce n'est abstrait. Et en 14, à l'occasion d'un petit voyage, il fait un saut de puce à Amsterdam. La Première Guerre mondiale éclate et il reste coincé. Il va rester coincé pendant 5 ans aux Pays-Bas et c'est durant toute cette période que Mondrian et Slipher vont se lier d'amitié. Alors, tout d'abord, une amitié bonhomme, une amitié de garçon. Tous deux partagent un goût affirmé pour la vie nocturne, la musique, le dandysme, les beaux vêtements, et Salomon Slipher échangera de très belles vestes de prix contre des toiles. Il offrira, il prêtera ses smokings à Mondrian pour que il puisse se représenter comme il l'entend dans les expositions à cette époque-là. Et puis, il partage le goût des femmes. Et Slipher va acheter Mondrian presque sans le voir. Alors il va acheter tout ce que Mondrian a peint avant d'aller à Paris. Et fondamentalement, c'est le Mondrian figuratif qu'on découvre dans cette exposition. Et c'est une peinture extrêmement riche, variée, de premier ordre. Et Mondrian le lui dit, il lui dit que ce sont des œuvres majeures. Et puis en 1919, quand Mondrian trépigne de reprendre la conversation là où il l'a laissée avec cette avant-garde qui séjourne à Paris, Slipher, vous l'avez dit, va lui acheter son fonds d'atelier parisien, donc des œuvres qui sont plutôt des œuvres à tendance abstraite, sans jamais les voir, et ce qui va permettre à Mondrian de poursuivre son chemin et d'avoir la carrière internationale qui l'attend.
Alors, à partir de 1919, justement, on va avoir un témoignage. C'est cette voix que nous entendions tout à l'heure dans le générique de l'émission, de la première archive que vous avez remarqué, Marianne Mathieu. C'est son ami Michel Sefort, qui était lui-même peintre, belge, historien d'art, et qui nous donne son souvenir sur cet atelier de Mondrian qui se trouvait rue du Départ, juste derrière la gare Montparnasse.
Je n'avais jamais rencontré cette simplicité humaine, cette extrême modestie chez un homme qui avait atteint un certain sommet. Et cette humanité, cette souplesse, cet accueil si cordial se passait dans le lieu le plus beau que j'avais jamais rencontré, cet atelier de Mondrian. Une chapelle Sixtine moderne, complètement dépouillée au point de vue concret, mais au point de vue mental également. Il n'y avait rien à lire. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait aucune revue, aucun magazine, il n'y avait pas un journal, quoi que ce soit, qui traînait sur la table. Rien, absolument rien. Et il n'y a jamais rien eu. Quand Mondrian recevait une revue dans laquelle on parlait de lui, il la regardait, il la lisait, et ça disparaissait. Il ne gardait pas. Heureusement que ses amis, dont moi, ont gardé sa correspondance à lui. Mais lui, il ne gardait rien du tout. Tout devait être absolument dépouillé, on ne devait être attaché à rien d'autre que le nouveau tableau à faire, ou en train de se faire.
Une chapelle Sixtine moderne, c'est pas rien cette comparaison, Marianne Mathieu. Mais c'est vrai que à partir de ce retour à Paris, Mondrian devient le Mondrian que maintenant les grands musées exposent. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que chez lui, en revanche, alors à Paris, il percera pas beaucoup à ce moment-là, et chez lui, à La Haye, rien du tout.
Oui, c'est une période qui est extrêmement complexe, puisque Mondrian est reconnu par toute une intelligentsia, mais n'arrive pas à vivre de sa peinture, et notamment de vivre de sa peinture la plus récente, hein, qui est toujours la plus concise, la plus radicale. Mais c'est très intéressant ce témoignage de Michel Sefort, parce que Mondrian, comme Monet, construit un mythe et un personnage. Et Mondrian, et d'ailleurs Michel Sefort est tout à fait sincère, va se forger à Paris l'image du moine de la peinture abstraite. Hein, un homme qui vit dans le dépouillement le plus monacal et le plus absolu, à l'image de sa peinture. Et ça fait de Mondrian un extrémiste. Or, il ne l'est pas. C'est le yin et le yang. Il y avait dans cet atelier, j'en discutais avec l'auteur du catalogue raisonné de Mondrian, eh bien un petit cabinet. Et quand on tirait les rideaux de ce petit cabinet, il y avait des photos érotiques, voire pornographiques. Et Mondrian avait une vie personnelle auprès des femmes qui était extrêmement active, on dirait aujourd'hui débridée. Et il le cachait totalement à Michel Sefort. Donc il avait ce côté maître, d'un côté, et de l'autre, il vivait une vie qui lui était intime. Et c'est parce qu'il incarne et parce qu'il est pleinement ces deux aspects que la peinture de Mondrian est ce qu'elle est. Elle est explosive, elle est débridée, et c'est ce qu'on va voir dans l'exploration de sa peinture figurative, qui est toute en couleurs, qui est toute en expression, qui est toute en monumentalité, qui est en excès, qui est en recherche permanente, et puis un côté qui est un côté plus contenu, plus maîtrisé. Et c'est ça la peinture de Mondrian. Alors que représentent ces compositions néoplasticistes? Eh bien, elles représentent la structure. Et qu'est-ce que c'est la structure pour un peintre? Eh bien, c'est le motif ramené à sa substantifique moelle, c'est-à-dire des lignes. Et la peinture, ses outils, les trois couleurs primaires, le blanc et le noir, qui permettent de reconstituer le prisme. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement, l'essence, le souffle de vie? Eh bien, c'est la vibration. C'est l'imperfection. C'est le fait de ne pas avoir un angle droit. C'est le fait de ne pas terminer une ligne. C'est le fait de faire trembler le pinceau lorsqu'on appose le rouge ou lorsqu'on appose le jaune. Et c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu qui donne finalement cette vibration qui est l'essence même et qui crée cet équilibre qui est constamment renouvelé. Et donc, la peinture néoplasticiste de Piet Mondrian est tout à fait complémentaire de sa peinture figurative, et elle partage la même vibration. Et finalement, Mondrian finit par peindre ce qui n'a pas de forme à travers les outils du peintre, la ligne et la couleur.
Alors, ce qui est surprenant aussi pour les visiteurs, Marianne Mathieu, c'est que, ordinairement, dans ces années-là, qui sont les années de création artistique intense, à Paris notamment, Mondrian fait une figure de solitaire. Il n'a pas d'amitié avec des peintres, avec des sculpteurs qui sont très nombreux à Paris à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il reste, au fond, cet ermite, cette image de l'ermite dont vous nous parliez il y a un instant?
Mondrian arrive pour la première fois à Paris en 1912 parce qu'il a lu les comptes rendus d'expositions cubistes. Il se dit « c'est formidable, je partage les mêmes objectifs que les peintres cubistes, c'est-à-dire représenter dans toute leur vérité des objets à trois dimensions sur une surface plane. » Et le principe des cubistes, c'est de fragmenter la forme et donc de l'aplatir sur la toile. Et de 1912 à 1914, eh bien, il va côtoyer le monde de l'avant-garde parisienne, avec plus ou moins d'amitié, mais il est pleinement partie prenante de ce dialogue. Et lorsque les cubistes commencent à se dire « Mais mon Dieu, à force de fragmenter la forme, on ne reconnaît plus le sujet de la peinture », ils réintègrent des bouts de réalité dans la peinture. Et c'est donc ce qu'on appelle le cubisme synthétique. Et là, Mondrian s'insurge Il dit, mais moi, je veux peindre l'essence, donc je ne suis pas un peintre de l'anecdote ou du pittoresque. Et c'est un moment où le dialogue va, par la force des choses, s'interrompre. Mondrian passe toute la Première Guerre mondiale et donc il y a un dialogue qui est ininterrompu. Et pendant 5 ans, il va chercher. Et il arrive aux Pays-Bas à faire des premières toiles qu'on dit abstraites, géométriques. Pourquoi ? Parce qu'il ne part pas d'un élément de la nature, l'arbre comme on le voit souvent, ou les paysages, mais simplement il arrive à cette conclusion de dire « je vais faire des damiers à partir de lignes et de couleurs ». Et il arrive à Paris grâce à l'argent de Sleiper avec, je dirais, cette vérité chevillée au corps. Et que fait-il ? Il voit tous ses collègues qui ont abandonné l'abstraction pour revenir à la figuration comme si l'abstraction avait été une trahison à leur pays et une trahison à la peinture. Et là, oui, il fait figure de solitaire et il est le seul qui va, dans un contexte extrêmement violent, eh bien persévérer et fonder et définir ce que sont les compositions néoplasticistes. Donc il y a effectivement un certain isolement et une certaine primauté de cette figure de Mondrian dans ce Paris de l'après-Première Guerre mondiale.
Alors justement, cette abstraction, cette épure, il y parvient dans les années 20 à Paris. On va écouter une dernière fois Michel Sefort nous dire qu'au fond, en 1922, Mondrian s'est demandé s'il n'avait pas atteint son but et ce qu'il pouvait faire de mieux.
Nous sommes en 1912, vers la fin de cette année. Le cubisme est très nettement dépassé, à telle enseigne que lorsque Apollinaire en parle, il parle d'un certain cubisme très curieux de Mondrian. Mais en réalité, ce n'est plus du cubisme, c'est autre chose. Cela s'appellera plus tard la peinture abstraite. Une sorte de musique en couleur et en forme. Cette musique ou ces symphonies se développent elles-mêmes peu à peu et s'épurent progressivement à travers ces thèmes habituels, toujours l'arbre, les échafaudages, la mer. Cela devient un pur rythme de lignes horizontales et verticales accompagnées ou non accompagnées de couleurs. Et alors, le moment arrive où cela paraît stabilisé dans l'esprit du peintre. Il croit que c'est fini. Il écrit dans une lettre de 1922, que je possède, que ce qu'il poursuit, ce qu'il cherche depuis tant d'années, est maintenant atteint et qu'il pourrait ne plus peindre.
Comme si l'art était dépassé, comme si on débouchait dans une dimension presque philosophique.
Exactement.
Alors voilà, il aurait pu s'arrêter, il ne s'est pas arrêté puisqu'il a continué à peindre à New York. Et d'ailleurs, on dit que lorsqu'il est mort en 44 à New York, on pensait qu'il était sur le point d'aller plus loin, de trouver autre chose.
Il est comme Monet, il est un des rares peintres de l'histoire de l'art qui se renouvelle. Et d'ailleurs, c'est Boogie Woogie, marqué par le jazz, illustre remarquablement ce renouvellement permanent. Il ne peint pas la permanence, il peint cette essence, cet équilibre à reconstruire à chaque instant. Et donc, chaque trait, chaque ligne, chaque coup de pinceau, contribue de manière toujours renouvelée à recréer un nouvel équilibre. Et c'est cet équilibre du monde qui change à mesure que les années passent, qui n'est pas forcément le même à New York qu'à Paris en 1912, que va peindre Mondrian, qui reste un peintre-peintre.
Voilà, et un peintre figuratif, puisque c'est le thème de cette exposition que l'on peut voir jusqu'au 26 janvier au musée Marmottan-Monet. Et je vous remercie, Marianne Mathieu, d'être venue nous en parler ce soir.
Merci, Kathleen.
Au revoir.